France Inter.
Soyez les bienvenus sur Inter, le journal. Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alerte grave, quittez votre logement. Le message reçu hier soir par des centaines d'habitants de Chinon en Indre-et-Loire. Évacuation massive face aux crues qui gâchent ce week-end pascal entre le Val-de-Loire et le Limousin. Nous serons sur place. La colère des cliniques privées. Cette année, leurs tarifs augmenteront bien moins fortement que ceux des hôpitaux publics. Attention, prévient le secteur, des établissements vont devoir fermer, alors vrai risque ou coup de bluff, on fera le point. Dans ce journal aussi, Gaza où les chars israéliens quittent l'hôpital Al-Shifa selon le Hamas qui parle de dizaines de cadavres à l'intérieur. Une première action collective de riverains victimes de pesticides. Et puis 30 ans après la mort de Robert Doisneau, on ne connaît pas encore toutes ces photos.
Et au micro de Sonia De Villers, l'ancienne danseuse étoile Aurélie Dupont, pour son livre « N'oublie pas pourquoi tu danses », apparaître chez Albin Michel.
France Inter.
Encore une nuit à surveiller le niveau de l'eau, Alexis, en Indre-et-Loire.
Le département toujours en vigilance rouge aux crues et c'est Chinon qui concentre l'attention des autorités ce matin. Le niveau de la Vienne est en train d'y atteindre son pic à 5,43 m au-delà de la précédente crue majeure de 2007 dans cette ville. Par précaution, la préfecture a ordonné hier soir l'évacuation de tout un quartier, 750 habitants potentiellement concernés. Opération d'ampleur à laquelle a assisté Adrien Bossard. Reportage.
Le porte-à-porte dure plus d'une heure face à des habitants pas toujours compréhensifs.
Est-ce que quelqu'un aurait des parpaings, s'il vous plaît, pour pouvoir mettre les divans en hauteur un peu?
On peut directement téléphoner à la mairie, voir si eux peuvent vous aider. Mais le mieux, c'est d'évacuer, hein, de toute façon.
Bah, je vais aller à l'étage. Je signe quoi?
Alors, c'est juste signer une décharge comme quoi vous refusez d'évacuer et que vous souhaitez rester sur place.
Mais d'autres, comme Mathéo...
Mon grand-père me disait toujours, mieux vaut prévenir que guérir.
Ou Daniel. Acceptent la sentence et remplissent leur voiture de sacs.
Ma petite culotte et puis des soquettes, hein.
Sans oublier la brosse à dents, les objets de valeur et le chien.
Bah, je sais pas, ça me fait drôle de quitter ma maison pour une nuit. On va peut-être pas dormir pareil.
Direction l'accueil de loisirs de Ciney, où ils retrouvent une quinzaine de voisins qui ne peuvent être hébergés par la famille.
J'ai oublié mon livre, j'ai oublié l'ordinateur, j'ai oublié plein de choses. J'ai hâte de rentrer à la maison. C'est pas inondable chez nous, je suis sûre. Faut vraiment qu'il y en ait. Hein.
Une petite soupe préparée par la Croix-Rouge, quelques mots fléchés et tout le monde au lit sur des dortoirs. Annie, elle, relativise.
L'eau, on ne maîtrise pas. La nature, ça reste la nature et nous, on est tout petits à côté.
C'est la première fois qu'un quartier entier de Chinon est évacué à cause d'une crue et sans doute pas la dernière, les services de l'État préférant adopter le principe de précaution.
Reportage France Bleu Touraine. Dans le département voisin de la Vienne, la décrue a commencé, mais un kayakiste est toujours recherché, porté disparu depuis samedi. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce le lancement dès maintenant d'une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles. Dans les Alpes de Haute-Provence, le hameau du Haut-Vernay est à nouveau coupé du monde, barricadé par la gendarmerie. Après la découverte ce week-end d'ossements appartenant au petit Émile, disparu en juillet dernier, les recherches reprennent donc dans cette zone, dans une zone escarpée où a été retrouvé notamment le crâne de l'enfant. Une zone pourtant inspectée à plusieurs reprises ces 9 derniers mois. Nous serons sur place dans le journal de 8h.
Il est 7h33 en ce 1er avril, Alexis. Un lot de nouveautés pour votre quotidien.
Oui, avec des contraintes en moins déjà. Plus besoin de vignettes vertes sur le pare-brise de votre voiture. Les forces de l'ordre contrôlent désormais directement votre assurance auto ou moto via l'immatriculation. Et sur nos comptes en banque, Maxime Debs, des bonnes surprises et des moins bonnes aussi à partir d'aujourd'hui.
Parmi les bonnes nouvelles, d'abord celles qui concernent les allocataires de la CAF, du RSA ou encore de l'allocation pour adultes handicapés qui voient leurs prestations augmenter de 4,6%. Coup de pouce entre guillemets non négligeable dans cette période d'inflation. Cette réévaluation calquée sur le prix des produits à la consommation fait qu'un bénéficiaire du RSA célibataire percevra près d'une trentaine d'euros de plus par mois, soit 635 euros. Bonne nouvelle aussi si vous faites partie de ces milliers de retraités cotisant à l'Agirc-Arrco qui subissaient jusqu'ici une décote de 10% s'ils n'allaient pas plus loin que l'âge légal. Ce malus tombe en ce ce 1er avril et désormais ils toucheront leur pension en intégralité. Moins bonne nouvelle en revanche, en pharmacie, la franchise médicale double à compter d'aujourd'hui. On parle ici du reste à charge du patient qui n'est pris en compte ni par la sécurité sociale ni par les complémentaires de santé. Fixé à 50 centimes jusqu'ici, cette franchise passe aujourd'hui à 1 euro sur chaque boîte de médicaments achetés.
Quant aux chèques énergie, ils arriveront à partir de demain dans les boîtes aux lettres de 5,5 millions de ménages modestes concernés. Revalorisés aussi depuis quelques jours, les tarifs hospitaliers. En clair, ce que la sécurité sociale paye aux hôpitaux et aux cliniques pour un acte de soins. Et c'est le secteur public qui sort grand gagnant cette année, plus 4,3% contre seulement 0,3% pour le secteur privé. Les gestionnaires de cliniques ne décolèrent pas et font même planer, Victor Dolande, la menace de fermeture d'établissements.
Les prévisions du secteur sont alarmantes. Une clinique privée sur deux pourrait être en déficit à la fin de l'année. Les directeurs de ces établissements redoutent de devoir fermer des services de maternité, des urgences. Lamine Garbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée, ne comprend pas ces différences de traitement entre le public et le privé.
L'hôpital public aujourd'hui est incapable de retrouver une activité normale versus 2019. Donc sans nous, il ne peut pas fonctionner. Il ne se passe pas une journée sur l'ensemble des territoires où l'hôpital public n'appelle pas à l'aide les cliniques aux alentours pour prendre des patients aux urgences. Je suis absolument scandalisé et je demande que le gouvernement revoie immédiatement sa copie.
En Occitanie, les cliniques privées ont d'ores et déjà arrêté de renseigner le nombre de lits disponibles à l'Observatoire régional des urgences. Le public a besoin du privé, assure Nathalie Coutinet, enseignante-chercheuse en économie de la santé à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, mais pas à n'importe quel prix.
Le système est organisé de telle manière que le système privé est indispensable à l'organisation des soins. Les représentants des cliniques le savent et donc utilisent cet argument pour faire pression sur le gouvernement. Néanmoins, est-ce que économiquement ou en termes de rentabilité, il est justifié d'aligner les tarifs des cliniques privées aux hôpitaux publics? Non, absolument pas.
Les cliniques privées vont continuer à mettre la pression sur le gouvernement. Des actions sont d'ores et déjà en préparation pour les prochains jours.
En Israël, des milliers de manifestants devant le Parlement hier soir, proches d'otages du Hamas et manifestants anti-Netanyahou, ont réclamé pour le deuxième soir consécutif le départ du Premier ministre. Tandis qu'à Gaza, l'armée israélienne a-t-elle achevé son opération dans l'hôpital Al-Shifa ? Bonjour Michel Paul.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Vous êtes l'un de nos correspondants au Proche-Orient. Après deux semaines de siège, des chars israéliens seraient en train ce matin de se retirer d'Al-Shifa.
Oui, alors il faut le préciser, l'information provient de sources palestiniennes à Gaza. Après deux semaines d'opération, donc, les forces israéliennes se sont retirées du plus grand établissement de la bande de Gaza, l'hôpital Al-Shifa. Les blindés israéliens, les forces spéciales ont quitté l'enceinte de ce centre hospitalier. Des témoins oculaires ont affirmé que les troupes sont parties sous le couvert de frappes aériennes et de tirs d'artillerie. Selon le ministère gazaoui de la Santé, sous contrôle du Hamas, des dizaines de corps auraient été découverts à l'intérieur de l'hôpital après le départ des forces israéliennes. Il faut à nouveau le souligner, c'est une information qui n'est pas confirmée du côté israélien et l'on ne possède pas de détails supplémentaires à ce stade. Selon l'armée israélienne, au contraire, il s'agissait d'un raid précis visant des chefs terroristes et des infrastructures. L'armée a déclaré que plus de 500 membres du djihad islamique et du Hamas ont été capturés, quelques 200 ont été tués, dont plusieurs hauts commandants, au cours de cette opération. Et ce matin, un porte-parole militaire israélien a annoncé que deux soldats ont trouvé la mort lors de combats dans l'enclave palestinienne ces dernières 24 heures, ce qui porte à 600 le nombre de soldats israéliens morts depuis le début des affrontements entre Israël et le Hamas le 7 octobre dernier.
Michel Paul en direct de Jérusalem. Le bilan du Hamas approche, lui, les 32 800 Palestiniens tués à Gaza depuis octobre. L'organisation islamiste qui, pour la première fois, présente ses excuses aux Gazaouis pour, je cite, les souffrances causées par près de six mois de guerre contre Israël. L'autre information de la nuit à l'étranger, c'est ce revers cinglant pour le président Erdogan en Turquie. Son parti, l'AKP, balayé aux élections municipales par l'opposition qui conserve les plus grandes villes du pays, Istanbul, Ankara, Izmir, et en rafle de nouvelles au parti présidentiel. Le dirigeant turc n'a d'autre choix que de reconnaître un échec. L'Allemagne devient ce matin le troisième pays européen à légaliser le cannabis, promesse phare de la coalition de Olaf Scholz, mais sous sous strict encadrement. Les touristes ne sont pas concernés. On vous explique ça en détail sur le site de France Inter. En France, ils habitent près d'exploitations agricoles. Des riverains victimes de pesticides lancent une action collective en justice. C'est une première. Ces plaignants veulent obtenir réparation pour ce qu'ils ont subi, des cancers, des perturbations hormonales. Au même titre d'ailleurs que les agriculteurs qui peuvent déjà être indemnisés, Célia Quiret.
Cette maman d'un enfant de 9 ans habite en bordure d'un champ en Picardie. Elle vient de rejoindre cette action collective.
Mon fils en fait a déclenché une leucémie qui est très rare à l'âge de 5 ans, pour laquelle il a subi de lourds traitements, aboutissant même à une greffe de moelle osseuse. Quand on subit la maladie de son fils, quand il frôle la mort à deux reprises, il y a toutes ces questions qui vous mettent en éveil, en fait, sur tous les risques encourus.
Et en effet, des recherches de causes génétiques se sont révélées négatives. L'exposition aux pesticides peut donc expliquer cette leucémie. Pour l'avocate Corinne Lepage, qui coordonne cette action de groupe, il y a une injustice flagrante entre les agriculteurs et les riverains victimes de pesticides.
Parmi les produits qu'on épand, il y a des produits qui sont cancérigènes, des produits qui peuvent être des perturbateurs endocriniens. C'est pas pour rien que pour les agriculteurs, c'est considéré comme des maladies professionnelles. Alors vous allez me dire, oui, mais un agriculteur, finalement, il est beaucoup plus exposé qu'un voisin. Ben, c'est pas sûr, parce qu'un agriculteur, il va devoir se protéger. C'est une obligation légale. Le voisin, lui, il n'a rien du tout. Et puis, il ne va pas partir pendant 48 heures ailleurs.
Corinne Lepage espère obtenir des réparations systématiques des victimes. Et au-delà de l'aspect juridique, cette action collective vise à mieux protéger les riverains des épandages de pesticides.
Célia qui irait.
Le baiser de l'hôtel de ville, c'était lui.
Oui, derrière l'appareil, à l'origine de cette photo devenue iconique, Robert Doisneau. Bien sûr, le photographe est mort il y a tout juste 30 ans, le 1er avril 94. Mais ses clichés lui ont très largement survécu. Et justement, pour les faire vivre, l'atelier Robert Doisneau de Montrouge, près de Paris, se charge de numériser les 450 000 négatifs laissés par l'artiste. Une partie reste d'ailleurs à découvrir, sa petite fille Clémentine de Roudille.
La plupart des choses ont été numérisées, mais pas tout. J'aime infiniment tout son travail en couleurs, qu'on connaît peu. Il a fait tout un travail sur la banlieue de la Data en 84, un travail absolument magnifique. Il y a tout un travail d'archivage, de numérisation, et on découvre chaque jour des images totalement inédites de lui, des reportages. Il n'y a pas un sujet qu'il n'a pas traité. Et ça, c'est vraiment le travail qu'ils font à l'atelier et qui est extraordinaire. S'il est aussi célèbre aujourd'hui, c'est qu'il y a un travail quotidien sur l'œuvre d'un artiste.
La petite fille de Robert Doisneau avec Servane de Pastre et ses clichés plus ou moins connus sont régulièrement présentés lors d'expositions comme celle qui s'ouvrira le 1er juin à l'abbaye de la Chaise-Dieu en Haute-Loire.
Merci Alexis Morel. À suivre Yael Gauss, Dominique Seux, Sonia De Villers.